voix nue. Cette semaine, Michel Simon rencontre Pierre-William Glenn. Ce soir, les années 70, l'épanouissement.
Pierre-William Glenn, aujourd'hui, nous allons poursuivre vos rencontres avec des cinéastes importants et très talentueux. Alors, ce qui est frappant, c'est que vous avez à la fois travaillé avec des gens de la Nouvelle Vague. On a évoqué Jacques Rivette hier. Et aujourd'hui, on va parler de François Truffaut. Et puis, en même temps, des cinéastes de la génération suivante qui ont poursuivi de façon différente le travail de leurs prédécesseurs, comme Alain Corneau ou Bertrand Tavernier. Ce sont deux écoles, si on peut dire, même s'il n'y a pas d'école Tavernier-Corneau, mais il n'y a même peut-être pas d'école Nouvelle Vague non plus, parce que Truffaut et Rivette sont extrêmement différents. Rivette est dans une expérimentation, alors que Truffaut poursuit finalement une sorte de tradition française.
Oui, Truffaut, c'est la tradition française, et donc c'était pas la peine d'aller assassiner la tradition française qui a fait des films remarquables. C'était pas vraiment la peine, en tant que critique, c'était une manière de se faire une place pour les jeunes à Nouvelle Vague, d'essayer de couper les ponts, mais en fait, dès que ça a été possible, moi, pour moi, les films de Truffaut, ce qui est intéressant, c'est leur classicisme, bizarrement.
Alors, vous avez tourné trois films avec lui, Une belle fille comme moi, La nuit américaine et L'argent de poche.
Oui, les trois films sont extrêmement différents. Il y a une utilisation, techniquement, du zoom dans Une belle fille comme moi, qui est un film vraiment intéressant, un scénario intéressant et un dialogue intéressant.
Avec Bernadette Lafont.
Et Lafont est complètement génial. Mais enfin, tous, ils sont tous bien. Léotard est bien. Il y a un sens de l'humour macabre qui est remarquable. Et je me suis beaucoup amusé à faire un film noir dans une comédie. C'est intéressant d'aller chercher des contrastes, de faire des nuits plutôt dans le genre film noir. Et éclairer, c'est un film éclairé, là, il y a pas mal de moyens de lumière et tout. Mon équipe bouge vite à ce moment-là, mais c'est intéressant, c'est que le dynamisme là du découpage, du zoom, qui était étonnant pour ce type-là, qui était pas du tout conventionnel. C'était plus à la Lelouch, enfin, je parle d'utilisation des zooms, hein, pas du tout du fond du film, qui était assez étonnante. Et ça s'est vachement bien passé, c'est-à-dire que moi j'ai adoré là les acteurs, tout le monde là. Denner, Bernadette Lafont, Marchand, c'est Brasseur, je trouve ça le film drôle. Et puis il y a Michel Delahaye aussi qui termine le film. Critique des cahiers. Oui. Il y avait une anecdote avec Denner, c'est qu'il y avait, j'ai commencé un film de Giovanni qui s'appelait Où est passé Tom, avec Rufus, et dans lequel il jouait un rôle important, et dans lequel il a commencé à tourner une scène. Et midi, on est parti à manger, puis il n'est pas revenu. Et puis, on était dans une forteresse à Sals. Et d'un seul coup, quelqu'un a vu qu'il était dans les vignes, au milieu des vignes, et qu'il ne bougeait pas. Donc l'équipe est partie le chercher, essayer de le faire revenir. Il a dit, je ne peux pas revenir. Ils veulent me tuer. Et les gens, il a dit, ces gens veulent me tuer. Et, alors, je ne connaissais pas. À ce moment-là, tout ce qui est sorti là dans Temps Noir sur José Giovanni, mais il n'est pas revenu.
Qui avait pendant l'occupation,
qui a été dans la milice, donc il y a eu un problème, qui a été condamné à mort après la libération, qui a passé 3 ans, je crois, au quartier des condamnés à mort, et donc qui a fait sa peine, qui a écrit, qui s'en est sorti justement sur l'idée de s'en sortir en racontant des histoires. Qu'il a raconté, d'ailleurs, je pense que Giovanni était un très grand romancier, vraiment intéressant. Et donc, il n'est pas revenu. Alors, ça a été compliqué, il a fallu le remplacer, tout ça, tournage arrêté. Et puis, quand il est arrivé sur Une belle fille comme moi, il a été voir la production en disant, si on vous raconte que je suis parti d'un film et tout, c'est parce qu'il voulait me tuer, il a répété la même chose. Il y avait tout un ressentiment par rapport au passé de José et qu'il n'arrivait pas à formuler autrement que de dire qu'il ne pouvait pas être là. Ça s'est très bien passé sur le film, par ailleurs, mais c'était un côté écorché vif sur la Shoah, tout ça, c'était assez insensé. Costa m'avait raconté les mêmes choses là dans Z, en disant qu'il y avait des micros partout, il était en Algérie, qu'on le surveillait parce qu'il était juif, et Costa m'avait dit, bah écoute, c'est sûrement que t'es repéré, donc moi j'allais dormir dans ta chambre, tu vas dormir dans la mienne. Donc il y a une idée écorchée vif assez troublante chez ces gens. Et je crois que ça, dans son jeu, c'est quelque chose de très palpable, cette espèce de d'insécurité et tout ça. Je trouve ça vraiment intéressant.
Alors si on pense au travail d'un metteur en scène, finalement, la première partie, c'est le scénario, donc des rapports privilégiés avec le scénariste. Ensuite, c'est le tournage, rapport privilégié avec le chef opérateur.
Et le décorateur, le chef déco.
Plus encore le chef opérateur, je pense que c'est chaque moment. Et puis ensuite, le monteur, à la troisième étape, avec, si on a de la chance, un très bon producteur qui lui assure la continuité de tout, depuis le projet jusqu'à la fin.
Oui.
Alors comment vous vivez cette intimité véritable qu'il y a avec le metteur en scène, et en particulier, comment ça s'est passé avec Truffaut? Quel genre de personne il était comme artiste, de travailler avec lui? Est-ce qu'il y a eu des différences entre ces trois films ou s'est senti plus proche à certains moments? Et par exemple, dans La Nuit américaine, qui est un film sur le cinéma, où Truffaut se voit en mettant en scène, etc., on voit pas tellement de rapport avec le chef opérateur, qui est pourtant quelque chose de fondamental dans un film.
Ce qui est troublant et intéressant dans La Nuit américaine, c'est la double nature de tout le monde. Moi, je suis la seule personne qui n'apparaît pas dans le film. Ce qui est drôle, c'est que le rôle du chef-op, il est joué par mon assistant Walter Ball, qui pouvait jouer des scènes, puis repasser à la caméra et faire le point. C'est assez curieux, on était une relative petite équipe. Ce serait l'équipement d'un court-métrage maintenant. Donc, cette idée de double nature, c'est être acteur, encore une fois, et technicien. Il y a quelque chose que j'ai retrouvé, si j'ai fait des films comme acteur, c'était assez curieux, c'est-à-dire d'éclairer une scène, d'aller la jouer, puis de repasser à la caméra, de laisser la... Ça, c'est assez intéressant. Et d'ailleurs, c'est Truffaut qui m'a dit, si vous voulez faire des films comme réalisateur, il faudrait que vous passiez devant la caméra pour voir l'autre côté des choses, et de voir les gens qui vous regardent, les gens qui vous regardent pas. Donc il m'a dit que sur les films que j'ai tournés, il m'a dit, allez le voir, parce qu'on est resté très, très... très lié sur le cinéma avec Truffaut, jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Et il demandait à voir mes films, il était vraiment curieux. Truffaut, c'était le metteur en scène. Ça fait partie des metteurs en scène dans lesquels je suis heureux quand je vois les films monter. Je vois le même film que le film qui m'a raconté, que j'ai tourné. Il y a des films, vous savez, on n'aime pas beaucoup, nous, a priori, c'est ce que dit Del Bonnel, mais on n'aime pas beaucoup les monteurs parce que on fait des plans très très compliqués, qui durent, qui sont intéressants dans leur durée, et on en retrouve 3-4 secondes montées, c'est toujours un petit peu embêtant, c'est-à-dire le cinéma de montage. Bien sûr, je vais pas vous faire le côté malade du type qui veut que ses plans soient montés dans leur intégrité, mais on fait souvent des plans très très sophistiqués que je retrouve pas. Je retrouve pas ça dans ce que j'ai fait. Je déteste les cinéastes de montage. Je déteste cordialement le cinéma d'Yves Boisset, par exemple, avec qui j'ai tourné. Et pour moi, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar à tourner. Et on tourne une scène sous tous ses angles. On la tourne en plongeur, on la tourne en contre-plongeur, on la tourne avec toutes les focales, la même scène. Noiret me disait, c'est terrible avec ce type-là, si j'ai 3 marches à monter, je sais que je vais faire 10 étages. Parce qu'on va la refaire 20 fois. Donc il me disait ça. Et c'est vrai que ce côté de... Pourtant, le film était intéressant, c'était Allons enfants, qui était un truc dans lequel j'avais fait quelque chose de pas mal. Et le soir, il me passait à ce moment-là en téléphone au labo, je l'entendais qui se faisait engueuler au téléphone, il me disait « Ah bon, moi je te le passe, je te le passe ». Il me passait Georges Janson, son monteur, qui me disait « Mais il manque des plans ». On avait tourné une scène avec 40 plans quand on aurait pu en faire de bien, je m'étais démerdé, c'était compliqué, parce que pour garder une continuité de lumière, c'est jamais facile, et il me disait qu'il me manquait de plans. Et donc ça, ce cinéma de montage, que j'ai revu après dans Le Prix du danger, c'est quelque chose qui me plaît pas. Ce qui est mon intérêt, c'est que le film que j'ai imaginé, à partir du scénario, que j'ai mis en lumière, que j'ai filmé, je le retrouve sur l'écran et je retrouve les sentiments et les sensations que j'avais et ça m'arrivait sur pas mal de films, les sentiments que j'avais au tournage. C'est-à-dire le sentiment du tournage est pour moi essentiel, le sentiment que l'on a dans ce qui se crée, cette chimie qui se crée entre les gens qui filment et les gens qui sont filmés, si je retrouve pas ça, ça m'ennuie. Alors je vais citer Boisset, il y en a quelques-uns comme ça qui sont des expériences un peu douloureuses.
On leur épargne vos expériences.
Pour revenir sur La Nuit américaine, c'est un film qui a eu l'Oscar du meilleur film étranger à Hollywood et qui a infléchi, on va dire, ma carrière de manière extrêmement efficace. C'est-à-dire que j'ai toujours eu, à partir de ce moment-là, plus de propositions de tournage de films que ce que je pouvais faire dans une année.
Puis il y a tout un côté que m'a fait bien connaître Truffaut, c'est l'idée d'être heureux, que j'ai retrouvé bizarrement avec Lelouch, l'idée d'être heureux sur un plateau. Alors ça, par contre, c'est une antithèse avec le cinéma classique de Duvivier et de Clouzot, dans lequel ils ne peuvent pas créer autrement que dans le conflit.
Et dans
Lara, qui ne peuvent créer que, ou de Carnet, qui sont, j'avais vu, Miller était assistant, là, sur Trois Chambres à Manhattan, j'ai été sur le tournage, c'était infernal, c'était un type qui n'arrêtait pas d'hurler, et de piétiner comme ça, c'est pas possible, c'était assez dément, quand on dit.
Et ce contre quoi était d'ailleurs la nouvelle vague?
Il y avait une tendance, c'est, si ça se passe bien sur le plateau, ça va faire un mauvais film. Donc ça, c'est presque des théories qu'il y avait tous ces types avant. Il y avait des mecs plutôt sympas, rigolos, comme Grangier, tout ça, qui étaient sympathiques sur le tournage. Mais l'idée d'être désagréable comme metteur en scène, et d'être capricieux, et d'être autoritaire, est humiliant. Parce que j'en ai vu, après. Je vous parlerai après de Piala. Mais l'idée que ça va pas bien se passer, pas pour moi, mais sur le plateau, que j'ai des gens qui vont être insultés, humilier des acteurs qu'on va mettre plus bas que terre, c'est pas très agréable. J'ai eu souvent le sentiment de non-assistance à personne en danger. Et on a envie de faire quelque chose et puis faut rien faire et c'est pas une position agréable.
Mais il y a aussi, chez Truffaut, comme chez vous, un amour des acteurs. Alors vous, c'est peut-être parce que vous étiez un acteur rentré, vous auriez dû... Mais c'est un peu une histoire d'amour aussi entre le chef opérateur et l'acteur. À Hollywood, des gens comme Greta Garbo demandaient le chef opérateur. C'est-à-dire que c'était les stars qui exigeaient tel chef opérateur. Oui. C'est elle qui faisait le choix. Et on comprend que, justement, il y a un rapport de complicité important avec l'acteur.
Très, très juste. Et ça, depuis le début. Et ça, depuis le début, où on m'a parlé des années 20, ça a été traité à l'Institut Lumière à Lyon, c'est « Je t'aime, je te filme ». C'est à l'idée de cette histoire
et
d'amour.
Vous-même, et vous-même.
Et « Je t'aime, je te filme », cette idée d'histoire d'amour entre quelqu'un qui est derrière une caméra et qui touche l'acteur ou l'actrice par la lumière et qui le regarde, qui le touche avec le regard, avec son œil, c'est quelque chose, la complicité qui s'installe là est une complicité qui est la jubilation de ce métier. C'est formidable. Alors, il y a les histoires d'amour entre les acteurs, actrices et les chefs-op. Je crois, d'ailleurs, ça a dû être une tendance forte des réalisateurs qui ont voulu cadrer leur film, comme Lecomte, vous voyez.
Ou Ozon,
qui veulent cadrer le film sur une idée d'intimité qu'ils veulent établir aussi, techniquement, pratiquement. Et d'ailleurs, c'était marrant parce que quand Truffaut m'a fait jouer, là, dans les Femmes de Personne, les films de Christopher Frank et tout, j'étais pour voir. C'est assez marrant. J'avais pas le sentiment, alors j'étais un opérateur, que les opérateurs et tout, au départ, il n'y avait pas de complicité entre eux et moi. Je me disais, peut-être que j'étais l'acteur, c'était rigolo. Ça s'est établi, parce que j'ai tourné deux scènes avec du texte, quoi, c'était rigolo. Mais entre un metteur en scène et une actrice ou un acteur, et entre un chef opérateur et une actrice et un acteur, il y a un problème de rivalité. C'est de savoir, il y a des gens un peu idiots, c'est qui vous disent tu vas pas parler aux acteurs.
Oui, vous voulez dire donc cette rivalité, c'est un peu Juliette
Amoureuse. Et c'est la couple à trois.
Sérénade à trois.
Ouais. Exactement. Sérénade à trois. Exactement. Mais c'est sûr. C'est sûr. Il y a quelque chose là qui est évident. Et puis l'idée, par exemple, que les acteurs ou les actrices savent qui les regarde de manière bienveillante. Moi, je l'ai eu plusieurs fois. Les gens, ça a été poussé jusqu'à la pire extrémité avec Romy Schneider, qui a dit sur un gros film américain que je faisais à Berlin, qui a dit au bout de 4 jours au metteur en scène, je veux plus t'écouter, c'est Willy qui me dira si la prise elle est bonne ou pas. Ça met une ambiance moyenne sur le tournage, pas forcément agréable, elle est toujours très très en porte-à-faux, là, et c'est délicat. J'ai vu ça aussi sur
c'était
le film.
C'était quel film à Berlin?
C'était Portrait de groupe avec Dame.
Ah, le film de Petrovitch.
Qui était un film, scénario génial. Romy Schneider génial, Brad Dourif génial, et puis alors un tournage alors particulièrement pénible qui m'a amené des grosses histoires. Romy qui a fait pression sur moi qu'elle voulait plus tourner. Alors elle était une star en Amérique, elle revenait en Allemagne après avoir giflé Springer, et donc elle était la cible de toute la presse people d'Amérique. Elle pouvait pas bouger une oreille. Tout son menu, ce qu'elle avait fait toute la journée, était dans les journaux en première page de Has-Been, tous ces trucs-là.
Et elle m'a demandé de trouver quelqu'un pour remplacer Sacha Petrovitch. Et il dit, je vais arrêter. J'ai dit, non, faut pas que t'arrêtes. Et il dit, je peux pas. Et donc, j'ai téléphoné à la téléphonie de nuit. J'ai eu la chance. J'ai eu l'intuition, encore une fois, qu'il fallait que je demande à Hans Brockmann de venir pour être là. Parce que j'ai téléphoné à Joseph Losey. Losey, en pleine nuit, m'a répondu. Il m'a dit, oui, bon, machin, si on ne prend aucun du matériel qui a été tourné, je refais tout et je suis d'accord. Le lendemain matin, j'avais tout l'état-major qui était arrivé d'Orion d'Amérique, qui me demandait, avec les responsables d'Armédia, c'était lui qui me regardait les yeux, et qui, Romy était au milieu avec son mari, et me disait, mais vous prenez pour qui, vous là, vous pensez que vous allez changer de metteur en scène comme ça, parce que ça vous plaît pas? J'ai regardé Romy, j'ai dit, Romy, écoute, tu vas leur dire que tu m'as dit hier soir. Pas un mot. C'est une situation difficile, heureusement que j'avais le producteur qui était là. Difficile. Ça fait des films difficiles à tenir, parce que c'est 16 semaines de tournage. Hein. Difficile à tenir après.
Alors, Pierre-William Glenn, parlons maintenant de Tavernier, alors, qui était votre directeur de diplôme à l'IDEC, et que vous retrouvez pour 6 films. Je crois que c'est le cinéaste avec lequel vous, et pas n'importe quel film. C'est d'abord les 3 premiers, L'horloger de Saint-Paul, Que la fête commence, et Le juge et l'assassin, qui sont tous les 3 d'ailleurs très différents les uns des autres. Et puis ensuite, vous allez tourner Une semaine de vacances, La mort en direct et Coup de torchon. Donc, c'est
et
vraiment...
un film Mississippi Blues.
Et en plus, le documentaire avec Robert Parrish, Mississippi Blue.
Avec Robert.
Donc ça fait 7 films. Donc une rencontre très importante et une expérimentation aussi, parce que, par exemple, 2 films en costume, comme Que la fête commence et comme Le juge et l'assassin, on peut pas imaginer traitement aussi différent.
Oui. Oui, le grand intérêt de Bertrand, c'est son érudition et sa curiosité, qui n'a jamais été mis en défaut, ça. C'est un type qui est extrêmement éclectique, qui m'a fait découvrir énormément de choses dans le cinéma. Donc moi, j'étais un membre avec lui du Nickelodeon. On allait à Londres, à Bruxelles et Amsterdam voir des films avec le Nickel, des films américains qui ont maintenant droit de cité, qui sont reconnus. Il est très malléable, il n'est pas psychorigide, et on a pu, avec lui, se mettre d'accord sur une manière de filmer toujours différente. Et l'avantage avec lui, c'est qu'il me faisait toujours une référence. Là, je me rappelle qu'on avait vu, pour Coup de torchon, il m'a fait voir La nuit du carrefour. C'est des caméras qui sont assez incertaines, qui bougent toujours, à des mouvements qui se terminent pas, qui sont coupés dans le mouvement. Et j'ai eu l'idée du Steadicam à ce moment-là, sur La mort en direct, et puis Coup de torchon. Donc, il y a une idée aussi d'un film, je dirais, comme le naturalisme anglais, de metteur en scène anglais, comme Ken Loach, de faire un film comme Que la fête commence, comme si la caméra avait été inventée à ce moment-là, et de faire ce côté documentaire sans effet de lumière, sans lumière très construite, avec quelque chose d'assez neutre, où tout va jouer sur une caméra à la main, souvent, des poursuites à la main, et une image naturaliste. Sur Le juge et l'assassin, c'est exactement le contraire, c'est très académique. Enfin, c'est très académique, je vous parle de moi. Pas le sujet traité, c'est-à-dire le traité d'un juge assassin et d'un assassin qui n'est pas responsable. Et c'est une idée d'un film noir qui est tourné de manière extrêmement, on va dire, esthétisante. Là, il y a beaucoup de lumière, il y a des intérieurs clinquants, brillants, il y a des mises en place et une mise en scène extrêmement en place avec des mouvements extrêmement, on va dire, et un découpage très précis. Sur La mort en direct, je vous dis, il y a une idée... De j'aurais été plus loin, moi, mais il voulait pas. Mais j'aurais été plus loin sur l'idée de science-fiction. C'est une science-fiction à partir de la réalité de Glasgow de l'époque, et on n'a pas été, à mon avis, on n'a pas été assez loin dans l'interprétation de l'image. Je voulais aller plus loin, mais c'est un metteur en scène qui sait, au bout du compte, il a un côté un peu emmerdant. Il dit, moi, je sais ce que je veux quand je le trouve. Moi, je sais ce que je trouve quand je le cherche. C'est l'idée contraire. C'est, on a une idée encore un petit peu d'improvisation, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui va se faire pendant le film et une recherche à partir du scénario. Moi, j'aime bien l'interprétation radicale. Et en lumière en cadre, ce que je pense on est arrivé à faire tout le temps avec lui. C'est toujours inventif, mais c'est difficile de savoir ce qu'il cherche exactement. Alors, heureusement qu'on a, je vais dire, une vie commune, on va dire, de cinéaste de cinéma commune, et qu'il pouvait me faire des références d'Elmer Dev, les mouvements de grue, choses comme ça dans le moment direct, là, c'est sûr. Mais c'est... Alors, il m'a laissé toujours une grande liberté, Bertrand. Et je pense avoir été toujours fidèle à Bertrand. Et alors, comme il y a eu quelques soucis d'acteurs sur la mort en direct, il m'a dit, alors c'était un des rares metteurs en scène, qui m'a dit, il faut que je me prouve que je peux faire un film sans toi.
Donc après trois films, c'est pour ça que...
Ouais.
Mais après, il est revenu vers vous.
Après, oui, ouais.
Mais alors, je crois savoir qu'il y avait un désaccord, par exemple, que lui n'aime pas les longues focales que vous aimez.
Ah oui.
Alors, est-ce que c'est arrivé d'autres fois? C'est-à-dire que où le metteur en scène connaît vraiment la photographie et il n'est pas d'accord sur certains problèmes vraiment techniques, comme le choix de la focale.
Oui, c'est sûr. Il y a des metteurs en scène qui s'en foutent totalement. On parlait de Petrovitch. Il y a des metteurs en scène qui ne savent pas du tout, qui font semblant de savoir et qui ne savent pas du tout. Donc ça, c'est très agaçant. C'est-à-dire de ne pas avoir la connaissance de l'espace que vous filmez, l'espace cinématographique, l'espace que vous donnez aux acteurs, ça c'est assez troublant, et ça c'est une des grandes tares du cinéma français contemporain, c'est de pas savoir comment fonctionne l'espace cinématographique, pas savoir ce que c'est qu'une focale, la profondeur, la largeur de champ, ça c'est emmerdant. Moi j'aime bien les longues focales, c'est peut-être par timidité naturelle, on semble être loin des gens alors qu'on en est près. C'est ne pas imposer, ne pas s'imposer à l'acteur et lui laisser un espace. Les courtes focales, c'est d'être près des acteurs et dire « la caméra est là » et « je m'impose », c'est la mise en scène, tu vas faire comme ça. Donc il y a des types absolument géniaux, Kubrick est un génie absolu d'une manière d'organisation de l'espace avec des focales relativement courtes. Mais moi, effectivement, d'un point de vue, on va dire, psychologique, je préfère les longues focales. Et alors les références avec lui, c'était toujours « on va mettre une longue focale », non, et parce que moi j'aime bien la même scène, la même largeur de plan, avec une longue focale qu'avec une courte. Je préfère la même chose. Mais parce que c'est aussi une manière de mettre les acteurs dans un décor. Vous voyez, c'est toujours des choses qui sont pour moi plus intéressantes. Mais je ne l'ai jamais imposé. Et Bertrand n'a jamais vraiment voulu. Je suis arrivé à faire ça dans Boomerang avec le père Fischer. Là, on utilisait pas mal de longues focales. Mais ça, bagarre cinéphilique. Il y a des metteurs en scène d'affrontement. Avec Bertrand, ça s'est toujours vachement bien passé. Sur le tournage, sur les acteurs. Alors, il y a des metteurs en scène qui sont des metteurs en scène d'oreille, qui écoutent et qui regardent pas vraiment les acteurs et qui fait confiance. Et Bertrand a un problème de vue que tu connais. Il a un œil qui voit moins bien qu'un autre. Et il est moins visuel. Il est moins visuel que ce qu'il pourrait être. Ça n'empêche pas que on peut faire des choses extrêmement précises, mais il est pas assez sur les acteurs. Centré sur les acteurs, ce qui a amené des emmerdements terribles sur entre Remy et lui aussi sur la mort en direct.
Alors, une rencontre très importante pour vous, où vous avez accepté d'être cadreur, c'est Joseph Losey sur Monsieur Klein. Et puis ensuite Les Routes du Sud, mais Monsieur Klein particulièrement.
Oui, c'est un moment où il y a, comme je vous disais, les cartes professionnelles, où pour tourner un étranger, pour tourner en France, il doit avoir une dérogation. S'il n'a pas la dérogation, il ne peut pas tourner. Et donc, Joe, je l'ai rencontré au Royal Monceau en 74, où il m'a demandé d'être chef-op. Il m'a dit, si jamais Thierry avait une dérogation pour exercer le film, j'aimerais bien que vous soyez cadreur, parce que j'aime beaucoup ce que vous faites. On m'a dit, bon, il y avait Bertrand, Pierre Rissian en intermédiaire, donc tout ça était bien. Mais j'ai dit, avec un grand plaisir, sauf que j'ai un statut de chef-opérateur que je ne peux pas descendre. Il m'a dit, il n'y a aucun problème, c'est que j'ai été traité absolument royalement comme cadreur avec le statut de Jerry Fisher. Donc ce qui était pour moi, c'est des moments de ma vie où je gagne énormément de temps, où je vois quelqu'un travailler en lumière et où je fais au cadre des choses extrêmement intéressantes, très 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 sophistiquées. Très sophistiqué, parce que Jerry éclairait tout. Je naviguais entre des pieds de projecteurs et les cadres étaient, on va dire, à 5-10 centimètres près. Il y avait des projecteurs en dessous. C'était passionnant, fallait pas se tromper. Et quand je terminais avec une lampe dans le champ, je disais « faudrait bouger la lampe », il me disait « non, faut bouger le cadre ». Donc c'était, faut bouger le cadre, faut pas filmer ça, c'est en place et ça bougera pas. Donc, et on a tourné vite pour un film de cette envergure, on a dû gagner 2 semaines sur le tournage, sur un type qui est pour moi le meilleur metteur en scène avec qui j'ai travaillé. Et de loin, c'est un type qui est un homme de théâtre, Joe est un homme de théâtre, Joe est un homme de scénario, il savait écrire, il avait le sens des acteurs, il avait le sens, j'ai fait un pari avec lui sur un mouvement de caméra à la grue, où il m'a parié qu'il y avait quelque chose dans le champ que j'avais pas vu. J'ai dit, on le voit pas, c'était Frigetlis qu'on ne devait pas voir dans un plan. Il m'a dit, on va le voir, et il n'y avait pas de vidéo à ce moment-là. on a tiré le plan et c'était lui qui avait raison. Donc j'ai pas eu beaucoup de gens, de metteurs en scène, qui ont eu raison sur des choses que j'avais vues. Il n'y avait pas de vidéo. Et ça en fait partie, Jean. Enfin, c'était le metteur en scène.
Qui vous épatait le plus?
Ah, c'est lui qui m'a toujours épaté. Et j'ai vu tous ses films, j'étais épaté en tant que Mac Mahonien avec Pierre Rissian sur les téléfilms, et ça a été pour moi un espèce d'aboutissement de travailler avec cet homme. Et ce qui était drôle, c'est le rapport avec Kazan. Et moi, j'ai essayé bêtement de les réconcilier. C'est-à-dire que quand on était à la gare de Lyon, dans les souterrains où on embarque tout le monde pour Auschwitz, et j'ai dit à Joe, il y a un bouquin vachement bien sur Kazan. Moi, je lirai jamais rien de Kazan s'il ne dit pas qu'il s'est comporté comme un salaud. J'ai dit, il dit dans le bouquin qu'il s'est mal tenu. Et je lui ai amené le bouquin ce jour-là, quand on tournait ces scènes difficiles en dessous, là. Il a pris le livre, et j'ai cru qu'il allait le prendre. Et puis, il a hurlé d'un coup, il a dit « je peux pas », il m'a jeté le livre dans la gueule, et ce qui m'a fait mal d'ailleurs, parce que c'est un gros livre, il m'a fait mal avant d'aller tourner, il a dit « je peux pas ». Et ces deux mondes-là, ces deux cinéastes, je trouve, hors du commun, et c'est quand même... avec le recul, j'ai pensé que ça allait être possible, parce que j'avais trimballé Kazan dans Paris quand il est revenu dans les actions pour ressortir la fièvre dans le sang et ces trucs-là avec la cause. Je l'avais trimballé, j'ai resté 3 jours à Paris, je servais de chauffeur, il me faisait un numéro d'enfer sur l'idée qu'il allait faire le prochain film avec moi. Ils font souvent ça, les gars. Et l'Osé Kazan, là, c'est vrai qu'on fait un travail, il faut pas être sectaire. Faut pas être sectaire politiquement. Pas être sectaire, il y a des républicains américains qui sont extrêmement comme Eastwood, qui ne font que des films extrêmement impliqués, à mon avis, socialement, dans leur rapport aux femmes et tout. Et puis il y a des gens qu'on dit de gauche et qui font des films totalement désagréables. Je cite pas La vie d'Adèle, hein, parce que ce serait désagréable, mais enfin, c'est des films qui me sont totalement étrangers du point de vue du regard qu'ils portent sur les gens. Et donc, l'idée d'être sectaire, j'ai des autant, et ça se comprend pas beaucoup plus en politique maintenant, mais au cinéma, l'idée, un tel c'est ci, un tel c'est ça, généralement, ça implique ne pas connaître l'œuvre de la personne. Et une absence très, très, très dommageable d'une critique sérieuse, de voir les films pour ce qu'ils sont.
Merci beaucoup, Pierre-William Glenn. Donc, on poursuivra demain vos dernières rencontres. Enfin, il y en a beaucoup qu'on n'évoquera pas, mais d'autres rencontres importantes. Et puis surtout, aussi, votre formation des futurs chefs opérateurs avec votre travail à la FEMIS.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Michel Simon avec Pierre-William Glenn. À voix nue, réalisation Nathalie Salle, prise de son Jean-André Giannichini, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.